Comme toutes les choses humaines, la procédure française a des vices. Néanmoins, de même qu'une arme à deux tranchants, elle sert aussi bien à la défense qu'à l'attaque. En outre, elle a cela de plaisant que, si deux avoués s'entendent, et ils peuvent s'entendre sans avoir besoin d'échanger deux mots, ils se comprennent par la seule marche de leur procédure. Un procès ressemble alors à la guerre, comme la faisait le premier maréchal de Biron, à qui son fils proposait, au siège de Rouen, un moyen de prendre la ville en 2 jours. « Tu es donc pressé, lui dit-il, d'aller planter nos choux. Deux généraux peuvent éterniser la guerre en n'arrivant à rien de décisif et ménagent leurs troupes, selon la méthode des généraux autrichiens que le conseil Aulique ne réprimande jamais d'avoir fait manquer une combinaison pour laisser manger la soupe à leurs soldats. » Maître Cachan, Petit Clos et Doublon se comportèrent encore mieux que des généraux autrichiens. Ils se modelèrent sur un Autrichien de l'Antiquité, sur Fabius Cunctator. Petit Clos, malicieux comme un mulet, eut bientôt reconnu tous les avantages de sa position. Dès que le paiement des frais à faire était garanti par le Grand Cointet, il se promit de ruser avec Cachan et de faire briller son génie aux yeux du papetier en créant des incidents qui retombassent à la charge de Métivier. Mais malheureusement pour la gloire de ce jeune Figaro de la Basoche, l'historien doit passer sur le terrain de ses exploits comme s'il marchait sur des charbons ardents. Un seul mémoire de frais, comme celui fait à Paris, suffit sans doute à l'histoire des mœurs contemporaines. Imitons donc le style des bulletins de la Grande Armée. Car, pour l'intelligence du récit, plus rapide sera l'énoncé des faits et gestes de Petit Clos, meilleure sera cette page exclusivement judiciaire. Assigné le 3 juillet au tribunal de commerce d'Angoulême, David fit défaut. Le jugement lui fit signifier le 8. Le 10, Doublon lança un commandement et tenta, le 12, une saisie à laquelle s'opposa Petit Clos en réassignant Métivier à 15 jours. De son côté, Métivier trouva ce temps trop long, réassigna le lendemain un bref délai et obtint, le 19, un jugement qui débouta Séchard de son opposition. Ce jugement, signifié roi le 21, autorisa un commandement le 22, une signification de contrainte par corps le 23 et un procès verbal de saisie le 24. Cette fureur de saisie fut bridée par Petit Clos qui s'y opposa, en interjetant appel en cour royale. Cet appel, réitéré le 15 juillet, traînait Métivier à Poitiers. « Allez, se dit Petit Clos, nous resterons là pendant quelque temps. » Une fois l'orage dirigé sur Poitiers, chez un avoué de cour royale à qui Petit Clos donna ses instructions, ce défenseur à double face fit assigner à bref délai David Séchard par Madame Séchard en séparation de biens. Selon l'expression du palais, il « diligenta » de manière à obtenir son jugement de séparation le 28 juillet. Il l'inséra dans le courrier de la Charente, le signifia dûment, et le 1er août, il se faisait par devant notaire une liquidation des reprises de Madame Séchard, qu'il a constituée créancière de son mari pour la faible somme de 10 000 francs, que l'amoureux David lui avait reconnu en dot par le contrat de mariage, et pour le paiement de laquelle il lui abandonna le mobilier de son imprimerie et celui du domicile conjugal. Pendant que Petit Clos était ainsi à couvert à la voire du ménage, il faisait triompher à Poitiers la prétention sur laquelle il avait basé son appel. Selon lui, David devait d'autant moins être passible des frais faits à Paris sur Lucien de Rubempré que le tribunal civil de la Seine les avait, par son jugement, mis à la charge de Métivier. Ce système, adopté par la cour, fut consacré dans un arrêt qui confirma les condamnations portées au jugement du tribunal de commerce d'Angoulême contre Séchard fils. En faisant distraction d'une somme de 600 francs sur les frais de Paris, mise à la charge de Métivier, en compensant quelques frais entre les parties, eu égard à l'incident qui motivait l'appel de Séchard. Cet arrêt, signifié le 17 août à Séchard fils, se traduisit le 18 en un commandement de payer le capital, les intérêts, les frais dus, suivi d'un procès-verbal de saisie le 20. Là, Petit Clos intervint au nom de Madame Séchard et revendiqua le mobilier comme appartenant à l'épouse dûment séparée. De plus, Petit Claud fit apparaître Séchard père devenu son client. Voici pourquoi. Le lendemain de la visite que lui fit sa belle-fille, le vigneron était venu voir son avoué d'Angoulême, Maître Cachan, auquel il demanda la manière de recouvrer ses loyers compromis dans la bagarre où son fils était engagé. « Je ne puis pas occuper pour le père lorsque je poursuis le fils, » lui dit Cachan. « Mais allez voir Petit Claud, il est très habile et il vous servira peut-être encore mieux que je ne le ferai. » Au palais, Cachan dit à Petit Claud, « Je t'ai envoyé le père Séchard, occupe pour moi, à charge de revanche. » Entre avoués, ces sortes de services se rendent en province comme à Paris. Le lendemain du jour où le père Séchard eut donné sa confiance à Petit Claud, le grand Cointet vint voir son complice et lui dit « Tâchez de donner une leçon au père Séchard. Il est homme à ne jamais pardonner à son fils de lui coûter 1000 francs, et ce débours séchera dans son cœur toute pensée généreuse, s'il en poussait. « Allez à vos vignes, » dit Petit Claud à son nouveau client. « Votre fils n'est pas heureux, ne le grugez pas en mangeant chez lui. Je vous appellerai quand il en sera temps. » Donc, au nom de Séchard, Petit Claud prétendit que les presses étant scellées, devenait d'autant plus immeuble par destination que depuis le règne de Louis XIV, la maison servait à une imprimerie. Cachan, indigné pour le compte de Métivier, qui, après avoir trouvé à Paris les meubles de Lucien appartenant à Coralie, trouvait encore à Angoulême les meubles de David appartenant à la femme et au père, il y eut là de jolies choses, dit à l'audience, assigna le père et le fils pour faire tomber de telles prétentions. Nous voulons, s'écria-t-il, démasquer les fraudes de ces hommes qui déploient les plus redoutables fortifications de la mauvaise foi, qui, des articles les plus innocents et les plus clairs du code, font les chevaux de frise pour se défendre, et de quoi de payer 3000 francs, pris où? Dans la caisse du pauvre Métivier. Et l'on ose accuser les escompteurs. Dans quel temps vivons-nous? Enfin, je le demande, n'est-ce pas à qui prendra l'argent de son voisin? Vous ne sanctionnerez pas une prétention qui ferait passer l'immoralité au cœur de la justice. » Le tribunal d'Angoulême, ému par la belle plaidoirie de Cachan, rendit un jugement contradictoire entre toutes les parties, qui donna la propriété des meubles meublants seulement à Madame Séchard, repoussa les prétentions de Séchard père, et le condamna net à payer 434 francs 75 centimes de frais. Le père Séchard est bon, se dirent en riant les avoués. Il a voulu mettre la main dans le plat, qu'il paye. Le 26 août, ce jugement fut signifié de manière à pouvoir saisir les presses et les accessoires de l'imprimerie le 28 août. On apposa les affiches. On obtint sur requête un jugement pour pouvoir vendre dans les lieux mêmes. On inséra l'annonce de la vente dans les journaux et Doublon se flatta de pouvoir procéder au recollement et à la vente le 2 septembre. En ce moment, David Séchard devait, par jugement en règle et par exécutoire levé, bien légalement, à Métivier la somme totale de 5 275 francs 25 centimes, non compris les intérêts. Il devait à Petit Claud 1200 francs et les honoraires, dont les chiffres étaient laissés, suivant la noble confiance des cochers qui vous ont conduit rondement à sa générosité. Madame Séchard devait à Petit Claud environ 350 francs et les honoraires. Le père Séchard devait ses 434 francs 65 centimes et Petit Claud lui demandait 100 écus d'honoraires. Ainsi, le tout pouvait aller à 10 000 francs. À part l'utilité de ces documents pour les nations étrangères qui pourront y voir le jeu de l'artillerie judiciaire en France, il est nécessaire que le législateur, si toutefois le législateur a le temps de lire, connaisse jusqu'où peut aller l'abus de la procédure. Ne devrait-on pas bâcler une petite loi qui, dans certains cas, interdirait aux avoués de surpasser en frais la somme qui fait l'objet du procès? N'y a-t-il pas quelque chose de ridicule à soumettre une propriété d'un centiaire aux formalités qui régissent une terre d'un million? On comprendra par cet exposé très sec de toutes les phases par lesquelles passait le débat la valeur de ces mots. La forme, la justice, les frais, dont ne se doute pas l'immense majorité des Français. Voici ce qui s'appelle en argot de palais « mettre le feu dans les affaires d'un homme ». Les caractères de l'imprimerie pesant 5 milliers valaient, au prix de la fonte, 2000 francs. Les trois presses valaient 600 francs. Le reste du matériel eût été vendu comme du vieux fer et du vieux bois. Le mobilier du ménage aurait produit tout au plus 1 000 francs. Ainsi, de valeurs appartenant à Séjar-fils et représentant une somme d'environ 4 000 francs, Cachan et Petit Clos en avaient fait le prétexte de 7 000 francs de frais, sans compter l'avenir dont la fleur promettait d'assez beaux fruits, comme on va le voir. Certes, les praticiens de France et de Navarre, ceux de Normandie même, accorderont leur estime et leur admiration à Petit Clos. Mais les gens de cœur n'accorderont-ils pas une larme de sympathie à Kolb et à Marion? Pendant cette guerre, Kolb, assis à la porte de l'allée sur une chaise tant que David n'avait pas besoin de lui, remplissait les devoirs d'un chien de garde. Il recevait les actes judiciaires, toujours surveillés d'ailleurs par un clerc de Petit Clos. Quand des affiches annonçaient la vente du matériel composant une imprimerie, Kolb les arrachait aussitôt que l'afficheur les avait apposées, et il courait par la ville les ôter en s'écriant « Les coquins demandez à une si prafomme, et ils appellent ça de la justice !» Marion gagnait pendant la matinée une pièce de 10 sous dans une papeterie et l'employait à la dépense journalière. Madame Chardot avait recommencé, sans murmurer les fatigantes veilles de son état de garde-malade, et apporté à sa fille son salaire à la fin de chaque semaine. Elle avait déjà fait 2 neuvaines en s'étonnant de trouver Dieu sourd à ses prières et aveugle aux clartés des cierges qu'elle lui allumait. Le 2 septembre, Ève reçut la seule lettre que Lucien écrivit après celle par laquelle il avait annoncé la mise en circulation des 3 billets à son beau-frère et que David avait caché à sa femme. « Voilà la 3e lettre que j'aurais eue de lui depuis son départ », se dit la pauvre sœur en hésitant à décacheter le fatal papier. En ce moment, elle donnait à boire à son enfant. Elle le nourrissait au biberon car elle avait été forcée de renvoyer la nourrice par économie. On peut juger dans quel état l'a mis la lecture de la lettre suivante, ainsi que David qu'elle fit lever. Après avoir passé la nuit à faire du papier, l'inventeur s'était couché vers le jour. Paris, 29 août. Ma chère sœur, il y a 2 jours, à 5 heures du matin, et j'ai reçu le dernier soupir d'une des plus belles créatures de Dieu. La seule femme qui pouvait m'aimer comme tu m'aimes. Comme m'aiment David et ma mère, en joignant à ces sentiments si désintéressés, ce qu'une mère et une sœur ne sauraient donner, toutes les félicités de l'amour. Après m'avoir tout sacrifié, peut-être la pauvre Coralie est-elle morte pour moi. Pour moi, qui n'ai pas en ce moment de quoi la faire enterrer. Elle m'eût consolé de la vie. Vous seuls, mes chers anges, pourrez me consoler de sa mort. Cette innocente fille a, je le crois, été absoute par Dieu, car elle est morte chrétiennement. Ô Paris, mon Ève, Paris est à la fois toute la gloire et toute l'infamie de la France. J'y ai déjà perdu bien des illusions. Et je vais en perdre encore d'autres en y mendiant le peu d'argent dont j'ai besoin pour mettre en terre sainte le corps d'un ange. Ton malheureux frère, Lucien. P.S. J'ai dû te causer bien des chagrins par ma légèreté. Tu sauras tout un jour et tu m'excuseras. D'ailleurs, tu dois être tranquille. En nous voyant si tourmentés, Coralie et moi, un brave négociant à qui j'ai fait de cruels soucis, Monsieur Camusot, s'est chargé d'arranger, a-t-il dit, cette affaire. La lettre est encore humide de ses larmes, dit-elle à David en le regardant avec tant de pitié qu'il éclatait dans ses yeux quelque chose de son ancienne affection pour Lucien. Pauvre garçon, il a dû bien souffrir s'il était aimé comme il le dit, s'écria l'heureux époux d'Ève. Et le mari comme la femme oublièrent toute leur douleur devant le cri de cette douleur suprême. En ce moment, Marion se précipita, disant « Madame, les voilà, les voilà !»« Qui ?»« Doublon et ses hommes, le diable, Kolb se bat avec eux, on va vendre !»« Non, non, on ne vendra pas, rassurez-vous » s'écria Petit Clos dont la voix retentit dans la pièce qui précédait la chambre à coucher. « Je viens de signer un appel. »« Vous ne devez pas rester sous le poids d'un jugement qui taxe de mauvaise foi. »« Je ne me suis pas avisé de me défendre ici. »« Pour vous gagner du temps, j'ai laissé bavarder Cachan. » Je suis certain de triompher encore une fois à Poitiers. Mais combien ce triomphe comptera-t-il? Demanda Madame Séchard. Des honoraires si vous triomphez, et 1 000 francs si nous perdons. Mon Dieu! S'écria la pauvre Ève. Mais le remède n'est-il pas pire que le mal? En entendant ce cri de l'innocence éclairé au feu judiciaire, Petit Claud resta tout interdit, tant Ève était belle. Le père Séchard, mandé par Petit Claud, arriva sur ces entrefaites. La présence du vieillard dans la chambre à coucher de ses enfants, où son petit-fils au berceau souriait au malheur, rendit cette scène complète. « Papa Séchard, dit le jeune avoué, vous me devez 700 francs pour votre intervention, mais vous les répéterez contre votre fils en les ajoutant à la masse des loyers qui vous sont dus. » Le vieux vigneron saisit la piquante ironie que Petit Claud mit dans son accent et dans son air en lui adressant cette phrase. « Il vous en aurait moins coûté pour cautionner votre fils, » lui dit Ève en quittant le berceau pour venir embrasser le vieillard. David, accablé par la vue de l'attroupement qui s'était fait devant sa maison, où la lutte de Kolb et des gens de Doublon avaient attiré du monde, tendit la main à son père sans lui dire bonjour. « Et comment puis-je vous devoir 700 francs ?» demanda le vieillard à Petit Claud. « Mais parce que j'ai d'abord occupé pour vous. Comme il s'agit de vos loyers, vous êtes vis-à-vis de moi solidaire avec votre débiteur. Si votre fils ne me paye pas par ces frais-là, vous me les paierez vous. Mais ceci n'est rien. Dans quelques heures, on voudra mettre David en prison. L'y laisserez-vous aller ? Que doit-il ? Mais quelque chose comme 5 à 6 000 francs, sans compter ce qu'il vous doit et ce qu'il doit à sa femme. » Le vieillard, devenu toute défiance, regarda le tableau touchant qui se présentait à ses regards dans cette chambre bleue et blanche. Une belle femme en pleurs auprès d'un berceau. David, fléchissant enfin sous le poids de ses chagrins. L'avoué qui peut-être l'avait attiré là comme dans un piège. L'ours crut alors à sa paternité mise en jeu par eux. Il eut peur d'être exploité. Il alla voir et caresser l'enfant qui lui tendit ses petites mains. Au milieu de tant de soins, l'enfant, soigné comme celui d'un père d'Angleterre, avait sur la tête un petit bonnet brodé, doublé de roses. Eh, que David s'en tire comme il pourra. Moi, je ne pense qu'à cet enfant-là, s'écria le vieux grand-père, et sa mère m'approuvera. David est si savant qu'il doit savoir comment payer ses dettes. Voilà, dit l'avoué d'un air moqueur, la véritable expression de vos sentiments. Tenez, papa Séchard, vous êtes jaloux de votre fils. Écoutez la vérité. Vous avez mis David dans la position où il est, en lui vendant votre imprimerie 3 fois ce qu'elle valait, et en le ruinant pour vous faire payer le prêt usuraire. Oui, ne branlez pas la tête. Le journal vendu au Cointé et dont le prix a été empoché par vous en entier était toute la valeur de votre imprimerie. Vous haïssez votre fils parce que vous l'avez dépouillé, parce que vous en avez fait un homme au-dessus de vous. Vous vous donnez le genre d'aimer prodigieusement votre petit-fils pour masquer la banqueroute de sentiments que vous faites à votre fils et à votre bru, qui vous coûterait de l'argent, hic et nunc, tandis que votre petit-fils n'a besoin de votre affection que in extremis. Vous aimez ce petit gars-là pour avoir l'air d'aimer quelqu'un de votre famille et ne pas être taxé d'insensibilité. Voilà le fond de votre sac, père Séchard. Est-ce pour entendre ça que vous m'avez fait venir ? Dit le vieillard d'un ton menaçant, en regardant tour à tour son avoué, sa belle-fille et son fils. « Mais monsieur, s'écria la pauvre Ève en s'adressant à Petit Claud, avez-vous donc juré notre ruine ? Jamais mon mari ne s'est plaint de son père. » Le vigneron regarda sa belle-fille d'un air sournois. « Il m'a dit 100 fois que vous l'aimiez à votre manière, dit-elle au vieillard en comprenant la défiance. » D'après les instructions du grand Cointet, Petit Claud achevait de brouiller le père et le fils afin que le père ne fît pas sortir David de la cruelle position où il se trouvait. « Le jour où nous tiendrons David en prison, avait dit la veille le grand Cointet à Petit Claud, vous serez présenté chez Madame de Sénonches. » L'intelligence que donne l'affection avait éclairé Madame Séchard, qui devinait cette inimitié de commande, comme elle avait déjà senti la trahison de Cérizet. Chacun imaginera facilement l'air surpris de David, qu'il ne pouvait pas comprendre que Petit Claud connut si bien et son père et ses affaires. Le loyal imprimeur ne savait pas les liaisons de son défenseur avec les Cointet, et d'ailleurs, il ignorait que les Cointet fussent dans la peau de Métivier. Le silence de David était une injure pour le vieux vigneron. Aussi, l'avoué profita-t-il de l'étonnement de son client pour quitter la place. Adieu, mon cher David, vous êtes averti! La contrainte par corps n'est pas susceptible d'être affirmée par l'appel. Il ne reste plus que cette voie à vos créanciers, ils vont la prendre. Ainsi, sauvez-vous. Ou plutôt, si vous m'en croyez, tenez, allez voir les frères Cointet, ils ont des capitaux. Et si votre découverte est faite, si elle tient ses promesses, Associez-vous avec eux. Ils sont après tout très bons enfants. Quel secret ? Demanda le père Séchard. Mais croyez-vous votre fils assez niais pour avoir abandonné son imprimerie sans penser à autre chose ? S'écria l'avoué. Il est en train, m'a-t-il dit, de trouver le moyen de fabriquer pour 3 francs la rame de papier qui revient en ce moment à 10 francs. Encore une manière de m'attraper, s'écria le père Séchard. Vous vous entendez tous ici comme des larrons en foire. Si David a trouvé cela, il n'a pas besoin de moi, le voilà millionnaire. Adieu mes petits amis, bonsoir. Et le vieillard de s'en aller par les escaliers. Songez à vous cacher, dit à David Petit Clos, qui courut après le vieux Séchard pour l'exaspérer encore. Le petit avoué retrouva le vigneron grommelant sur la place du Mûrier, le reconduisit jusqu'à Loumeau et le quitta en le menaçant de prendre un exécutoire pour les frais qui lui étaient dus s'il n'était pas payé dans la semaine. « Je vous paye si vous me donnez les moyens de déshériter mon fils sans nuire à mon petit-fils et à ma bru, » dit le vieux Séchard en quittant brusquement Petit Clos. Comme le grand Cointet connaît bien son monde, ah, il me le disait bien, ces 700 francs à donner empêcheront le père de payer les 7 000 francs de son fils. S'écriait le petit avoué en remontant à Angoulême. Néanmoins, ne nous laissons pas enfoncer par ce vieux finaud de papetier. Il est temps de lui demander autre chose que des paroles. « Eh bien, David, mon ami, que comptes-tu faire ?» dit Ève à son mari quand le père Séchard et l'avoué les eurent laissés. « Mets ta plus grande marmite au feu, mon enfant !» s'écria David en regardant Marion. « Je tiens mon affaire !» En entendant cette parole, Ève prit son chapeau, son châle, ses souliers, avec une vivacité fébrile. « Habillez-vous, mon ami, » dit-elle à Kolb. « Vous allez m'accompagner, car il faut que je sache s'il existe un moyen de sortir de cet enfer. »« Monsieur, » s'écria Marion quand Ève fut sortie, « soyez donc raisonnable ou Madame mourra de chagrin. Gagnez de l'argent pour payer ce que vous devez, et après vous chercherez vos trésors à votre aise. »« Tais-toi, Marion. » répondit David. « La dernière difficulté sera vaincue. J'aurai tout à la fois un brevet d'invention et un brevet de perfectionnement. » L'appeler des inventeurs en France est le brevet de perfectionnement. Un homme passe 10 ans de sa vie à chercher un secret d'industrie, une machine, une découverte quelconque. Il prend un brevet, il se croit maître de sa chose. Il est suivi par un concurrent qui, s'il n'a pas tout prévu, lui perfectionne son invention par une vis et la lui ôte ainsi des mains. Or, en inventant pour fabriquer le papier une pâte à bon marché, tout n'était pas dit. D'autres pouvaient perfectionner le procédé. David Séchard voulait tout prévoir afin de ne pas se voir arracher une fortune cherchée au milieu de tant de contrariétés. Le papier de Hollande, ce nom reste au papier fabriqué tout en chiffon de fil de lin, quoique la Hollande n'en fabrique plus, est légèrement collé, mais il se colle feuille à feuille par une main-d'œuvre qui renchérit le papier. S'il devenait possible de coller la pâte dans la cuve et par une colle peu dispendieuse, ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui mais imparfaitement encore, il ne resterait aucun perfectionnement à trouver. Depuis un mois, David cherchait donc à coller en cuve la pâte de son papier. Il visait à la fois 2 secrets.